Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Novembre 2025, publication d'une étude portant sur le faible regain de population d'oiseaux mangeurs d'insectes après l'interdiction d'un néonicotinoïde en France. Depuis quand et pourquoi les populations d'oiseaux, mangeurs d'insectes, déclinent dans nos campagnes? Qu'est-ce qu'un néonicotinoïde et quand sont-ils apparus? Quel lien a-t-il été établi entre néonicotinoïdes et populations d'oiseaux, mangeurs d'insectes? Aujourd'hui, quelle est la représentation de ces oiseaux en France? Quels mécanismes sont engagés afin d'enrayer leur disparition? Un bond dans le temps sera nécessaire afin d'entreapercevoir comment les populations d'oiseaux ont évolué sur le territoire français. On ne peut s'empêcher de penser à l'ouvrage phare d'écologie scientifique rédigé par Rachel Carson dans les années 70. Silent Spring, le printemps silencieux, comme elle le nommait, représentait l'impact énorme de l'utilisation de produits chimiques et toxiques sur les populations d'oiseaux ainsi que sur l'ensemble du vivant. Humains inclus. Dès 1995, en effet, les chasseurs faisaient part de l'observation de perdrix grises qui chutent en plein vol. Depuis la mise sur le marché au milieu des années 90 du premier insecticide néonicotinoïde, l'imidacloprid, cette famille chimique n'a cessé de faire l'objet de débats intenses concernant ses impacts environnementaux. Les néonicotinoïdes, c'est une classe d'insecticides neurotoxiques. Ils agissent en fait en se liant aux récepteurs au niveau du système nerveux central, interférant ainsi dans la transmission neuronale. Ils ont une plus grande affinité avec les récepteurs des insectes que ceux des vertébrés, si bien qu'ils sont moins toxiques vis-à-vis de ces derniers. Ces préoccupations environnementales, focalisées en premier lieu sur les abeilles domestiques, ont conduit à des retraits d'usage successifs. Pourtant, les inquiétudes ne concernent pas uniquement les pollinisateurs, comme en témoigne le cas de mortalité d'oiseaux granivores, d'oiseaux mangeurs de graines essentiellement, pouvant résulter d'une intoxication par des semences traitées qui ont été reportées par le réseau SAGIR, un réseau gouvernemental qui met en œuvre une surveillance événementielle des maladies de la faune sauvage depuis 1986. Dès 2015, une étude fait état des données récoltées via ce réseau depuis 1995, en cherchant à évaluer la probabilité que la mort de ces oiseaux soit effectivement due à une intoxication par des semences traitées à l'imidacloprid, ainsi que les facteurs de risque de survenue de ces incidents. En particulier, sont-ils liés à des situations singulières et donc rares, ou plutôt liés à une situation globale? Ce bilan montre donc que tous les oiseaux mangeurs de graines sont régulièrement exposés à des semences traitées à l'imidacloprid, à des doses pouvant entraîner des effets aigus létaux. Par conséquent, les deux principales mesures, enfouissement des graines, effet répulsif supposé atténuer le risque, pour ces espèces ne semblaient pas être en mesure à l'époque de les protéger efficacement. Pour rappel, 5 grains de maïs enrobés avec des néonicotinoïdes suffisent à tuer une perdrix. À cela s'ajoute une mortalité indirecte liée à des atteintes à la capacité des oiseaux de se reproduire ou de se repérer dans l'espace. À ce sujet, le consensus scientifique est total. D'abord restreint dans son utilisation, ce néonicotinoïde est officiellement interdit en France en 2018. Venons-en à notre étude parue en novembre dernier. Celle-ci conclut sur la faible reprise des populations d'oiseaux, mangeurs d'insectes, après l'interdiction d'un néonicotinoïde en France, ce fameux imidaclopride, laissant présager des impacts durables. Cette étude fait état d'un moins net déclin en réalité des populations d'oiseaux des campagnes en France après cette interdiction en 2018 de l'imidaclopride. À l'époque, il s'agissait donc d'un des insecticides les plus vendus en France. Afin de comprendre l'évolution des oiseaux des campagnes et le lien entre la disparition de ces derniers avec la disparition des insectes, les chercheurs ont surveillé sur la période de 2013-2022 les populations de 57 espèces d'oiseaux, mangeurs de graines, mangeurs d'insectes, généralistes, et ce sur un peu moins de 2000 parcelles. Toutes ces parcelles étaient inventoriées avec le taux de nicotinoïdes et autres pesticides utilisés ou contenus dans les sols. Les chercheurs ont constaté que le déclin des oiseaux mangeurs d'insectes était légèrement plus important, 12%, avant l'interdiction, donc contre 9% de déclin post-interdiction. L'étude pointe ainsi l'impact néfaste de l'imidaclopride sur les oiseaux insectivores et souligne que les interdictions de pesticides à elles seules ne garantissent pas une restauration immédiate de la biodiversité. Cela appelle à des actions de conservation supplémentaires dans les paysages contaminés par les néonicotinoïdes afin de restaurer les populations d'insectes et d'oiseaux. Plantons des haies, par exemple, construisons des mares, faisons en sorte que ces derniers soient connectés les uns avec les autres et avec le reste du territoire via ce qu'on appelle des continuités écologiques. En 30 ans, c'est plus de 30% des populations d'oiseaux des campagnes qui ont disparu, d'après le Muséum national d'histoire naturelle. Pour les insectes, le chiffre est un peu plus complexe à obtenir étant donné la finesse d'analyse nécessaire, mais nos pare-brises, désormais immaculées, parlent mieux que les mots. En 30 ans, l'accélération du déclin des populations d'insectes a franchi des seuils jusqu'ici inégalés à l'échelle de notre espèce humaine. On parle de plusieurs centaines d'espèces d'insectes en danger d'extinction. Côté actu, ce n'est pas une météo sublime qui se présage pour nos compagnons à six pattes et nos amis à plumes. Alors que le premier plan éco-phyto en 2009 visait l'objectif de moins 50% d'usage de pesticides, à l'horizon 2018, en réalité, la consommation a augmenté de 7% entre 2009 et 2023. Depuis deux ans, la situation empire avec une avalanche de réglementations, omnibus sur le plan européen, des autorisations illimitées de pesticides, une révision des directives socles, une révision de la politique agricole commune et du plan éco-phyto, la loi d'orientation agricole, la loi du plomb 1 et 2, le moratoire sur les décisions dans le domaine de l'eau. Qui mange qui ? Là est une question que bon nombre d'entre nous se posent depuis l'école primaire. L'oiseau mange l'insecte. La grenouille mange l'insecte. Le poisson mange l'insecte. Le lézard mange l'insecte. La chauve-souris, la taupe, le moineau, les tourneaux, la perdrix, l'alouette des champs se délectent de l'insecte. Et le hérisson, lui aussi, aime s'en régaler. Mais une certaine hérissonne a décidé qu'elle mangerait bien un autre mets, tout droit sorti des forêts. Tendons un instant la feuille à son récit fantastique. Une hérissonne bien sensible.
Loin de chez la hérissonne, il y avait une ronce sur laquelle poussait la mûre la plus grosse du monde. Elle avait la taille d'une pomme. Chaque jour, la hérissonne faisait le long chemin jusqu'à la ronce pour regarder le fruit. Elle voulait le manger lorsqu'il serait parfait. Il ne devait être ni trop ferme, ni trop mou. Et un beau jeudi d'été, la mûre était enfin parvenue à maturité. Tout excitée, la hérissonne grimpa péniblement le long de la ronce. La belle mûre étincelait au soleil comme une pierre précieuse. Le parfum sucré qui s'en dégageait étourdit la hérissonne lorsqu'elle approcha son museau frémissant. Mais à la seconde où elle ouvrit la bouche pour croquer dedans, un corbeau arriva en lui criant.
« Quoi ?
Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas manger cette énorme mûre ! Tu ne sais pas ce qu'on fait quand on trouve quelque chose d'aussi exceptionnel ?» croassa le corbeau. « Répondit la hérissonne en se sentant stupide. On prend une photo de soi avec le trésor pour avoir une preuve. Comment tu feras sinon pour frimer auprès de ceux que tu connais? Une si grosse mûre, il faut s'en vanter. Mais mon appareil photo est resté chez moi. Alors ramène la mûre avec toi. Oh! Un peu confuse d'avoir été réprimandée, la hérissonne reprit le chemin du retour avec la mûre. Le corbeau lui avait prêté une brouette, mais celle-ci était lourde et branlante et le sentier chaotique. La mûre se faisait secouer chaque fois que les roues heurtaient une pierre. Un renard l'observait, l'air sceptique, du haut de la colline. La hérisson le remarqua seulement lorsqu'il glapit. « Eh oh ! Hérisson ! Tu ne vois pas que ta mûre va devenir de la compote à force d'être secouée comme ça ?»« Mais je... » commença la hérisson. « Tu essaies de faire de la confiture ou quoi ?»« Non, mais je... Tu dois la porter avec douceur. Les mûres, c'est fragile. Tu ne sais pas ça. » La hérisson souleva la mûre et la posa sur sa tête. Puis, elle se mit à avancer avec difficulté. À présent, ça allait encore moins vite. La mûre lui cachait la vue, si bien qu'elle sursauta lorsqu'un hibou hula. « Ouh, ouh, hérisson, tu trouves que c'est une bonne idée, ça ? Trimballer quelque chose d'aussi lourd, tu veux t'abîmer le dos ? Moi, je sais, je suis vieux, il faut prendre grand soin de son dos. »« Mais j'essaie de prendre soin de la mûre, » dit la hérisson. « La mûre ? Mais on fait du sirop avec les mûres. Tu comptes bien faire du sirop avec cette grosse mûre, non ? Comme ça, tu en auras pour toute l'année. » Il faut prévoir, planifier. Moi, je sais, je suis vieux, hua le hibou en ébouriffant ses plumes. La hérisson ne savait plus quoi faire. Elle posa la grosse mûre par terre et commença à la faire rouler devant elle. À peine avait-elle fait 3 mètres qu'une belette lui cria : Mais Berk, qu'est-ce que tu fais ? Toi, là, il me semble que c'est la plus grosse mûre du monde. Et toi ? Tu l'as fait rouler par terre. Tu ne vois pas qu'elle va être sale? Une mûre aussi belle à sa place au milieu d'un gâteau à la crème. C'est une décoration. Tu as déjà fait le gâteau? Qui est à la fête? Je suis invitée. Effrayée, la hérisson s'empressa de passer son chemin avec la mûre. Bientôt, elle arriva au bord d'un petit ruisseau où était amarré son bateau. Elle monta à bord et se mit à ramer, mais vit avec stupeur qu'un canard nageait vers elle. « Oh non !» pensa la hérisson. « Que va me dire ce stupide canard ?» Ballotté par le courant, le canard s'écria « Salut, salut !»« Bonjour !» répondit la hérisson. Le canard sourit en hochant la tête. La hérisson s'arrêta de ramer. Ils se regardèrent. « Que penses-tu de ma mûre ?» demanda la hérisson. « Belle, scintillante, comme un poisson !» répondit le canard. « Je vais la manger. Tu veux la partager avec moi ?» Bien sûr! La hérisson et le canard dévorèrent la mûre ensemble. Elle était parfaite, exactement comme la hérisson se l'était imaginée. Ni trop ferme, ni trop molle. Idéale à manger. Juste comme ça.
Avoir un fourré semble pratique pour fournir gîte et couvert à une population bien fournie. Planter une haie est un dur labeur. Ici, dans les Hauts-de-France, on peut s'aider du réseau des planteurs volontaires pour des plantations sur certaines parcelles communales ou bien sur des terrains agricoles.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson ? Oh, quelle est triste sa chanson ?
Un imaginaire complet sort des brindilles clairsemées et c'est en hommage à ce vivant que s'est créé le projet Les Haies de Joël Auxenfant. Le but du projet est de fédérer des haies qui peuvent se faire partout, d'interpeller tous les acteurs, professionnels et amateurs, retraités, enfants, familles. Les Haies est également un projet avec les autres haies. C'est qu'elles composent un peu partout en France avec des acteurs privés, associatifs ou publics. D'une certaine manière, sont ambassadrices de toutes les initiatives en ce sens. Cet artiste souhaite que ces haies magnifient le vivant, dessinent des tableaux évolutifs dans le paysage, en plantant un monument viable, pérenne, évolutif, accueillant, qui soigne la société et qui fait du bien à tous ceux qui participent, avec l'impression d'agir et de récolter les bienfaits de l'œuvre dans un projet en progression, toujours plus grand, toujours plus abondant. La période des plantations d'arbustes se termine, cette semaine, avec le retour des beaux jours. Mais les projets de plantation de demain dépendent de nos choix cette semaine et les suivantes.
Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi, dans ce livre-là.
À celle ou celui qui bouture un fragment de vivant, caressant l'idée de voir naître un fourré nourricier, étalant des racines sans aucun obstacle que nous-mêmes pourrions encore placer sur la route. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tournons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.